Bernard Mazoyer est professeur de radiologie et d'imagerie médicale de la faculté de médecine de Caen. Il est directeur du groupe d'imagerie neurofonctionnelle. C'est une unité conjointe CNRS-CEA qui est évidemment à l'Université de Caen. Avec son équipe, il est pionnier en France de l'étude des fonctions supérieures du cerveau par les méthodes d'imagerie cérébrale. C'est vous dire, Bernard Mazoyer, que nous vous attendons sur ce cerveau de la connaissance.
Merci. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux parce que l'angoisse de l'orateur, c'est de parler devant la salle vide. Donc je vois que le problème ne va pas se poser ce soir. Je voudrais commencer d'abord en remerciant le professeur Michaud et le comité d'organisation de l'Université Tous les Savoirs. Je crois que pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir et un vrai privilège de parler ce soir. On n'a pas tellement d'occasion, finalement, au fond de nos laboratoires, de venir vous exposer à la recherche qu'on fait avec votre argent. Donc, c'est une occasion particulièrement agréable ce soir. Bon, l'objectif de la leçon de ce soir n'est pas de vous faire tourner la tête, bien que la première diapositive semblerait indiquer l'inverse. C'est vraiment de faire le lien entre les deux premières conférences et surtout de vous parler en fait d'un vieux débat qui est le débat qui porte sur les rapports entre le cerveau et la pensée. Donc c'est un débat qui date d'assez longtemps et qui n'est pas clos, mais qui connaît en fait une nouvelle jeunesse avec l'arrivée des premières méthodes qui permettent d'observer le fonctionnement du cerveau chez l'homme sain. Je voulais commencer en citant une phrase de Nicolas Thénon, qui était un anatomiste tout à fait extraordinaire du XVIIe siècle, et qui disait « Messieurs, au lieu de vous promettre de concentrer votre curiosité touchant l'anatomie du cerveau, c'est pourquoi vous êtes là ce soir, je vous fais ici une confession sincère et publique que je n'y connais rien, ce qui est mon cas. » Et pour vous permettre de vous retrouver un petit peu dans la présentation de 50 minutes qui va suivre, on va travailler en 5 points. Je vais rappeler des choses que, probablement, si vous assistez à la conférence de Philippe Hacher, vous connaissez presque déjà, qui est des données sur l'architecture du cerveau humain, pour vous montrer qu'en fait, l'essentiel des données sur le fonctionnement cérébral, jusqu'aux années 80, étaient des données microscopiques. Et on n'avait pas de technique qui permettait d'étudier vraiment le fonctionnement macroscopique du cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire assez intéressante de la localisation des fonctions supérieures du cerveau, de ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc des fonctions intégrées comme le langage, la mémoire. Et vous verrez que c'est l'objet de débats intenses. Ça a été l'objet de débats intenses et ça reste l'objet de débats. Et dans une troisième partie, je vous présenterai ces techniques d'imagerie moderne. Vous verrez qu'il y a deux grands groupes de techniques, des techniques qui regardent la chronométrie des événements mentaux et des techniques qui permettent de trouver leur localisation. Le futur, qui n'est pas très loin, c'est évidemment d'arriver à des cartes spatio-temporelles de l'activité mentale. Et puis, la partie qui sera un peu courte, mais qui, j'espère, illustrera bien ce que ces nouvelles méthodes apportent au champ des neurosciences, c'est l'illustration, avec ces techniques, de ce que peuvent être les réseaux de la pensée. Et donc, c'est vraiment, je dirais, des images qui montre que la pensée est incarnée, il y aura sûrement des questions qui viendront ensuite, mais qui montre que la pensée est incarnée d'une certaine façon, et c'est les premières images depuis 10 ans qui sont produites sur ce thème. Et puis vous verrez quelques perspectives, dont une est un peu futuriste, voire de science-fiction, mais qui, à mon avis, il ne faut jamais dire jamais en science, pourrait peut-être se réaliser dans les années qui viennent. Alors, je voudrais juste vous rappeler d'abord que une des difficultés de l'étude du cerveau humain, c'est que c'est un organe qui présente des niveaux d'architecture extrêmement différents suivant l'échelle à laquelle on regarde. Donc, à une échelle macroscopique, ce que vous avez ici, c'est un cerveau humain qui est vu donc par la gauche, avec le pôle frontal et le pôle occipital. Et sur ce cerveau sont projetés en rouge ce qu'on appelle des zones d'activation. C'est des aires macroscopiques qui font quelques millimètres, quelques centimètres, et qui sont observées avec une des techniques que je vais vous présenter plus tard. Lorsque un sujet effectue une tâche, vous allez trouver peut-être un peu bizarre, il entend un mot et on lui demande de générer des verbes qui sont associés à ce mot. Donc vous verrez cette tâche en détail plus tard. Et quand un sujet fait cette tâche, il y a une série d'aires cérébrales en rouge qui sont distribuées comme ça sur plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres, qui sont activées et qui, d'une certaine façon, représentent le support macroscopique de cette fonction. Ça, c'est à l'échelon de plusieurs centimètres. Maintenant, si on prend un microscope, qu'on découpe un petit morceau de cerveau et qu'on regarde au microscope, on va voir une architecture complètement différente. C'est-à-dire on va voir la surface cérébrale, ce qu'on appelle le cortex, qui fait quelques millimètres d'épaisseur, avec des corps cellulaires, les noyaux des neurones, dont Philippe Achard vous a parlé, et puis, au milieu, la substance blanche qui contient les fibres qui connectent ces neurones les uns avec les autres. Ça, c'est à l'échelon de quelques millimètres. Et puis, si on descend maintenant encore, on s'aperçoit dans une coupe transversale qu'il y a une organisation, une architecture en colonne, c'est-à-dire que les neurones ne sont pas distribués comme ça de façon complètement aléatoire dans l'espace, ils s'organisent avec des connexions préférentielles perpendiculairement à la surface pour former des unités fonctionnelles qu'on appelle les colonnes et qui font à peu près 100 microns. Et si vous continuez encore à grossir et que vous prenez le petit carré ici, vous voyez un corps cellulaire, vous allez voir un neurone, donc qui est cette cellule assez typique du cortex cérébral, et ce neurone, on en a à peu près 100 milliards dans un cerveau humain, et bien ce neurone est caractérisé par son corps cellulaire, par un prolongement principal qu'on appelle l'axone, qui lui sert à envoyer des informations, mais aussi par des prolongements secondaires qu'on appelle les dendrites, qui lui servent à recevoir des informations. Et peut-être plus que le nombre de neurones, 100 milliards dans un cerveau, et le nombre de connexions par neurone, 10 000, ce qui fait un chiffre de absolument colossal de connexions possibles à l'intérieur d'un cerveau. Et ça, on est à l'échelle de 10 microns. Et quand on continue, on va trouver encore un autre niveau d'architecture, qui est au niveau de 50 nanomètres. Si on grossit une connexion, on tombe sur un élément fonctionnel nouveau qui est la synapse. La synapse qui est la zone de jonction entre la projection d'un neurone sur un autre neurone. Et dans la synapse, il y a encore des unités plus petites, il y a ces vésicules qui contiennent le neurotransmetteur, il y a la membrane postsynaptique, et quand on analyse encore la membrane synaptique à un échelon encore plus faible, disons 5 nanomètres, on voit une membrane qui est composée de deux couches de phospholipides et qui est percée à certains endroits par des macromolécules qui peuvent être soit des récepteurs, soit des canaux ioniques. Et il y a en gros un facteur 40 millions entre le niveau le plus élémentaire, qui est donc celui, si vous voulez, du canal ionique, et le niveau macroscopique du cerveau. On va complexifier encore un tout petit peu le problème, c'est qu'à cette architecture, j'allais dire fonctionnelle, vient se superposer une architecture vasculaire à différents niveaux. Alors, à quoi servent les vaisseaux dans le cerveau? Vous avez une circulation qui se fait par les artères et les veines dans le corps humain. Il y en a une aussi pour le cerveau. Et l'élément fondamental, c'est que le cerveau, qui pèse 1,5 kg, chez un homme de 75 kg, consomme 20% de l'énergie totale qui est consommée par le corps humain et reçoit 20% du débit qui provient du cœur. Donc c'est un organe qui surconsomme et qui est survascularisé par rapport au reste du corps humain. Et quand on regarde l'architecture, cette fois vasculaire, on va voir qu'au niveau macroscopique, on a un réseau artériel qui court à la surface du cerveau. Quand on regarde au microscope, on s'aperçoit que les artères elles-mêmes, à un certain moment, perforent le cortex pour aller irriguer les colonnes. Et si on regarde encore plus fin, on va s'apercevoir qu'il y a une systématisation du réseau artériel en artériole, chaque artériole étant responsable de l'irrigation d'un petit territoire du cortex cérébral. Et si vous allez encore au niveau le plus fin, vous arrivez au niveau des artérioles, vous verrez que les neurones qui sont ici schématisés en jaune sont en fait perfusés par des tout petits éléments vasculaires qu'on appelle des capillaires, qui font une dizaine de microns. Et ces capillaires en fait servent de zone de transfert entre les neurones d'une part et le sang d'autre part, sachant que tout ce dont le neurone a besoin en termes énergétiques va lui être amené par la circulation sanguine. Autre élément à retenir pour la suite, c'est que ces capillaires donc, qui arrivent en étant artériels repartent en étant des capillaires veineux, puis des vénules, puis des veines de collection qui de nouveau s'en vont ensuite vers les poumons pour être réoxygénés. Donc une architecture vasculaire aussi à différents niveaux qui correspond en fait aux différents niveaux d'architecture neuronale. Alors, à ces différents niveaux d'architecture correspondent aussi différents niveaux fonctionnels, et c'est un élément que je crois très important. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un niveau de description de l'architecture du cerveau, vous allez avoir un niveau de fonction. Et chaque niveau possède des propriétés qui ne sont pas directement explicables par le niveau qui lui est inférieur. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Et je vais vous expliquer assez vite des choses qui sont peut-être déjà présentées, ont déjà été présentées par Philippe Achard, mais j'en ai besoin juste pour vous expliquer d'où viennent ces techniques. Alors, l'élément d'information qui circule dans le système nerveux, c'est un potentiel d'action. Un potentiel d'action, c'est un petit courant qui circule le long des axones et qui va être envoyé donc aux autres neurones sur lesquels vient projeter cet axone. Alors, quand le potentiel d'action arrive au niveau d'une synapse, donc doit être transféré au neurone qui suit, il provoque la libération du neurotransmetteur. C'est cette molécule qui est située dans les vésicules à l'intérieur de la synapse. Ça, c'est de l'ordre de la milliseconde, la constante de temps. Ce neurotransmetteur passe dans la fente synaptique et se lie à des récepteurs, ces macromolécules qui sont sur la membrane. Et la liaison du neurotransmetteur sur son récepteur va provoquer une dépolarisation de la membrane. C'est quoi une dépolarisation ? C'est-à-dire que de part et d'autre de la membrane, il y a des ions, et que lorsque le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur, il y a des ions qui parcourent et qui traversent les canaux ioniques et qui changent la différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane. Ça s'appelle un potentiel postsynaptique. Et cet élément-là, ce potentiel postsynaptique, va prendre quelques millisecondes. Et le neurone postsynaptique, ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il intègre l'ensemble des différences de potentiel membranaire à un instant donné pour savoir si lui aussi il doit déclencher ou pas un potentiel d'action. Ça, c'est quelques millisecondes. Et l'élément fondamental de tout ce dont je vais parler ce soir est ici. C'est-à-dire que lorsque les potentiels postsynaptiques sont terminés, il faut rétablir le potentiel de repos. Car au repos, les cellules nerveuses ont un potentiel de membrane. Et pour rétablir ce potentiel de membrane, il faut les pomper les ions qui sont sortis de chaque côté. Donc il y a des pompes à ions dans les membranes, et ces pompes à ions, pour fonctionner, elles consomment de l'énergie. Et dans les cellules, l'énergie dans les cellules vivantes, l'énergie est toujours donnée par la même molécule, une molécule s'appelle l'ATP. Et donc pour pomper les ions, on dégrade de l'ATP. Ça prend quelques dizaines de millisecondes. Et ce phénomène, donc de consommation d'énergie, va entraîner, et là c'est important, c'est le changement d'échelle de temps, va entraîner un peu plus tard une réponse qu'on dit vasculaire, c'est-à-dire que le système sait qu'il a consommé d'énergie et il sait maintenant qu'il va falloir la remplacer. Et comme les neurones n'ont pas de stockage de matériel énergétique, on ne stocke ni le glucose ni l'ATP, eh bien il va falloir en amener là où on en a consommé. Et donc il va se produire une vasodilatation, c'est-à-dire les capillaires et les artérioles qui perfusent le petit territoire vont s'ouvrir pour laisser passer plus de sang et donc amener dans cette région-là les éléments de base qui permettent de fabriquer les molécules énergétiques que sont le glucose et l'oxygène. Et à terme, vous allez avoir donc une refabrication à l'intérieur des synapses d'ATP, donc néosynthèse d'ATP, à partir de ces éléments. Ce qui est important, c'est de bien noter qu'il y a une échelle de temps très différente entre les événements électriques qui se produisent à l'échelle de quelques millisecondes et les événements que je vais appeler pour la suite de l'exposé hémodynamiques, pour dire qu'ils ont un rapport avec la dynamique des vaisseaux sanguins, qui, eux, sont à l'échelle de la seconde. Et vous allez voir que ça a des conséquences assez importantes sur l'interprétation des signaux qui proviennent de chacune des techniques d'imagerie. Alors, sur cette petite table, je vais essayer de vous présenter rapidement en fait, les techniques d'étude du fonctionnement cérébral telles qu'elles ont été développées, en gros, depuis le 19e siècle. L'idéal, ça serait, d'après ce que vous avez vu sur les niveaux d'architecture, ça serait d'avoir une technique qui mesure, en chaque point du cerveau, ils ont tous les nanomètres et toutes les millisecondes ce qui se passe. Évidemment, c'est rigoureusement impossible à l'heure actuelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé soit à des échelles de résolution, on appelle ça la résolution, c'est la précision à laquelle on travaille, soit à des échelles spatiales très très précises, mais avec des constantes de temps qui étaient assez mauvaises. Donc on a fait de la biologie moléculaire, de la synapse, des récepteurs, etc. Soit on a développé des techniques qui étaient plutôt bonnes en résolution temporelle, par exemple des techniques de microélectrode, en sachant qu'on ne pourra placer qu'une à la fois. Et en fait, dans l'ensemble de ces techniques qui sont figurées, vous voyez qu'il y a une espèce de blanc ici. Donc jusqu'aux années 80, il n'y avait pas de technique qui opérait à l'échelon macroscopique. Et il y a une raison évidente pour ça, c'est que pour opérer à l'échelon macroscopique, il faut regarder le cerveau en entier. Pour regarder le cerveau en entier, il faut ouvrir la boîte crânienne. Et ça, il n'y a qu'un seul endroit, enfin il y a deux endroits où on peut le faire, c'est en salle d'autopsie et en salle d'opération. Donc il y a quand même un problème, il y avait un problème, jusqu'à ces années 90, où on a enfin des techniques qui permettent de regarder le cerveau vivant, sain, en train de fonctionner, en dehors de ces deux lieux que je ne vous conseille pas. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, qui est, on n'avait pas de technique pour regarder le fonctionnement du cerveau vivant. Et pourtant, il y a des choses qu'on a apprises au cours des siècles sur la localisation des fonctions cognitives. Alors, on a appris de façon des fois un peu bizarre. Et très rapidement, je vais vous faire un petit historique de ce qui s'est passé. Si j'avais appelé ça matière à penser, en faisant un petit jeu de mots, on pourrait remplacer ça le EE par ER, hein, parce que ça, vous allez voir que ça laisse à penser aussi. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on lit les textes des Grecs anciens, il y a Il y a cette phrase géniale de Platon qui dit « L'élément par lequel nous pensons serait-il le sang, ou l'air, ou le feu ?» Il dit « Ou bien il n'est aucun de ceci, étant le cerveau qui nous procure les sensations de l'ouïe, de la vue et de l'odorat, et de ceci naissent la mémoire et l'opinion, puis de la mémoire et de l'opinion devenue stable, naît de la même matière la science. » Merveilleux. On se dit, 500 ans avant Jésus-Christ, le problème était réglé. C'était fini. Et alors, on se dit, mais comment ça se fait qu'en fait, il y a eu autant de débats? C'est déjà qu'à la même époque, enfin, un petit peu plus tard, Aristote lui a dit, mais tout ça, c'est n'importe quoi. En fait, l'âme, vous savez, elle est dans le cœur. Le cerveau ne sert à rien. Et même au siècle des Lumières, vous pouvez trouver dans les textes de Shakespeare dans le Marchand de Venise, cette phrase qui dit, dites-moi où est l'âme, est-ce qu'elle est dans le cœur, est-ce qu'elle est dans l'esprit, dans la tête? Et en fait, le débat s'est poursuivi ainsi pendant des années. Et il s'est poursuivi essentiellement parce qu'on n'a jamais eu de méthode expérimentale pour aller regarder le fonctionnement cérébral. Alors, il y a deux grandes écoles qui sont opposées, qui sont en fait résumées par les diapositives précédentes, mais qui s'opposent encore, j'allais dire. Il y a une école qu'on appelle l'école dualiste, qui dit le cerveau et la pensée, c'est deux choses complètement différentes, soyons clairs. Il y a le cerveau c'est une machine, la machine il fait des calculs, mais la pensée c'est autre chose. Et c'est deux mondes qui sont séparés. Alors ça, c'est l'histoire de Descartes et de sa glande pinéale. Donc vous avez une belle machine pour voir les objets, avec l'œil, le nerf optique, etc. Et là où ça se gâte, c'est quand ça arrive à l'intérieur du cerveau. Donc à l'intérieur du cerveau, c'est terminé, la machine a fait son travail, mais il n'y a pas de pensée. Et la pensée, elle provient d'esprits animaux qui ne sont pas localisés dans l'espace et qui viennent en fait interpréter pour vous les signaux qui viennent de vos afférences sensorielles. Mais il y a une dichotomie complète entre le monde mental et le monde physique matériel. Alors, à cette approche dualiste, alors ça c'est bien parce que ça permet évidemment à la pensée de survivre après la mort. Alors que le monde matérialiste, il est très différent. Le monde matérialiste, il dit n'importe quelle opération mentale a une localisation ou délocalisation cérébrale. Et cette école-là, elle a été créée à la fin du 18e siècle, par un neurologue autrichien qui s'appelait Gall, qui a fondé une école qui s'appelait l'organologie. L'organologie, c'est si vous faites une opération, il y a un endroit de votre cerveau qui est responsable de cette opération. Alors plus tard, on a appelé ça la phrénologie. Et là où ça a un peu dérapé sur le plan scientifique, c'est que, comme il n'y avait pas vraiment d'études du cerveau, ils se sont dit que ce serait quand même plus simple si, au lieu de regarder le cerveau, on regardait la boîte crânienne. Surtout que la boîte crânienne, il y a des repères externes. Donc on n'est même plus obligé d'ouvrir. Et donc ça a un peu dérivé, et on est arrivé à des cartes comme celle qu'avait établie Miraglia en 47, où l'os du crâne est divisé en petites régions, chaque région correspondant en fait à la région qui est en regard sur le cerveau et qui prend en charge la fonction. Maintenant c'est un peu compliqué comme carte, parce que chaque fois qu'on inventait une nouvelle fonction, il fallait lui trouver une région. Donc on finissait par découper les choses, puis surtout ça a donné lieu alors, à un délire complet d'interprétation. Et par exemple, un très grand médecin français, Brousset, qui a laissé son nom à des hôpitaux, a osé écrire « Chacun ne peut donc que gagner à la connaissance des signes extérieurs qui distinguent l'intrigant de l'homme probe et de bonne foi. » Autrement dit, c'est le délit de Sale. Bon. Alors, il y a eu quand même une approche scientifique qui a dérivé de cette phrénologie. Et en fait, si on retourne aussi dans les textes, on s'aperçoit que dès la fin du XVIIIe siècle, il y avait un médecin italien qui s'appelait Vincenzo Malacarne, qui écrivait la chose suivante. « Je me renseigne sur le tempérament, les inclinations, la vivacité, le talent, certaines maladies de ceux que je vois mourir, je tiens un registre fidèle de toutes les informations que j'obtiens. Quand le malade meurt, j'en fais l'autopsie et j'examine avec curiosité le cerveau. » Ça, c'est une approche scientifique, expérimentale, avec une observation du cerveau et la mise en relation de symptômes et de compétences avec des lésions cérébrales. En fait, Malacarne n'a jamais fait véritablement de preuve expérimentale de la relation entre une fonction et une localisation cérébrale. Et c'est un Français, Paul Broca, qui était chirurgien à Bicêtre, qui, lui, a rapporté dans la littérature la première véritable expérience, entre guillemets, vous allez voir pourquoi, de localisation d'une fonction cérébrale. Donc ce cas est très très célèbre, c'est le cas d'un patient de M. Broca, on peut dire son nom maintenant, le secret médical est largement... dépassé. C'est M. Le Borgne qui arrive un matin à la consultation de Broca, et M. Le Borgne ne peut plus parler. Il comprend le langage, bon, il dit « levez le bras », il lève le bras, mais il ne sait plus prononcer qu'une seule syllabe, la syllabe « temps ». Donc dans la littérature, on l'appelle souvent « monsieur temps ». Et il meurt quelques jours après, il a fait un accident vasculaire cérébral, et Broca va autopsier son cerveau et trouve donc une lésion de ce qu'on appelle le pied de la troisième circonvolution frontale gauche. Et il fait immédiatement le lien entre le trouble qui était apparu 3 jours avant et l'existence de cette lésion. Pour conclure, j'ai trouvé l'aire de la motricité de la parole, l'aire de l'articulation. Et cette école, qu'on appelle l'école anatomoclinique, puisqu'elle met en rapport un signe clinique avec une lésion cérébrale, c'est une école qui va devenir extrêmement florissante, qui va se poursuivre avec les travaux de Wernicke, un neurologue allemand qui, lui, au lieu de s'intéresser au pôle antérieur du langage, sa production va s'intéresser au pôle postérieur, en s'amusant parce que chez les droitiers, le langage est dans l'hémisphère gauche, et dans les dessins de Wernicke originaux, il a représenté un hémisphère droit. Donc, comme quoi, des fois, on est distrait. Hein. Mais il s'intéresse quand même à la compréhension, et il trouve un pôle postérieur du langage dans l'hémisphère droit. Et il décrit, pour la première fois, un réseau. C'est un petit dessin qui montre un réseau qui permet d'associer un mot, de comprendre un mot et de le prononcer. Et il remet donc l'aire de Broca au bon endroit, mais sur un hémisphère droit. Et cette école, qui va s'appeler par la suite la neuropsychologie, va être extrêmement florissante, et elle va bénéficier en particulier, dans les années 60-70, du développement des méthodes d'imagerie anatomique qui peuvent être réalisées chez l'homme. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'attendre le décès du patient, parce que des fois, il y en a qui mettent du temps. Hein. Et donc là, on va pouvoir avoir des techniques qui, quand ils font l'accident vasculaire cérébral, hop, on examine leur cerveau avec des techniques qui sont non traumatiques, et donc on peut très très vite, en fait, faire le lien entre le symptôme et la lésion. Et en fait, alors, mon petit schéma, en 70-80, apparaissent ces techniques, vous voyez, qui ne répondent pas encore au problème. Parce que ces techniques qui sont anatomiques, elles n'arrivent pas à opérer dans la gamme des temps qui nous intéresse, celle des fonctions cognitives. Autrement dit, quand vous voyez le patient, ben, ça y est, il a déjà le trouble, et vous ne pouvez pas étudier la fonction. Ce que vous regardez, c'est l'état de son cerveau alors qu'il présente un trouble. Donc, ce ne sont toujours pas des techniques fonctionnelles. Par contre, elles vont permettre de faire de gros progrès dans la compréhension des localisations des lésions, soit en prenant des cerveaux, en les reconstruisant en 3D, donc ça c'est vraiment des outils numériques de dissection, soit surtout avec ces techniques anatomiques, la scanographie aux rayons X et l'imagerie par résonance magnétique, qui chez le sujet vivant permettent d'observer où est la lésion de façon précise. Alors juste pour la petite histoire, ce que vous avez ici, c'est l'imagerie par résonance magnétique de ce cerveau. Alors vous avez dit comment il a fait, ça c'était en 1861 et ça c'est en 1995. C'est parce que Manuel Cabanis, qui est neuroradiologue au 15-20, est allé rechercher ce cerveau dans son formol au musée du Puitrin et l'a passé dans son IRM à l'hôpital des 15-20. Et ce qu'on peut voir sur cet IRM, c'est que si Broca avait eu cet IRM au temps où il a fait l'autopsie du cerveau de M. Lerbonne, ben, il aurait vu que la lésion en fait, était beaucoup plus étendue que celle qu'il a décrite de façon externe et que probablement il n'aurait pas dit c'est la région du langage articulé, comme on va le voir plus tard. Tout le monde peut se tromper. Hein. Alors, donc on a vu toujours pas de technique fonctionnelle dans les années 70-80, et puis la révolution arrive en fait dans le courant des années 80-90 avec un groupe de techniques qui remplissent l'espace qui manquait. Donc là on a des techniques, ici, donc essentiellement 4 techniques, TEP ça veut dire tomographie par émission de positons, IRM fonctionnel ça veut dire imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, à ne pas confondre avec celle qu'on vient de voir qui est l'imagerie anatomique, bien que ça se fasse avec le même appareil, et puis des techniques électroencéphalographie et magnétoencéphalographie. Et vous voyez que ces techniques, elles comblent cet espace-là. Soit vous avez des techniques qui vont travailler à l'échelon millimétrique, soit vous avez des techniques qui permettent maintenant de travailler chez l'homme à l'échelon de la milliseconde. Et ceci, ce qui est important, c'est de façon totalement non-invasive, bien entendu. Autrement dit, on va pouvoir réaliser des expériences scientifiques chez des témoins volontaires sains qui effectuent des fonctions cognitives comme du langage, de la mémoire, du raisonnement. Alors, il faut bien séparer les choses parce qu'il y a vraiment deux types de techniques différentes. Je vous ramène à mon petit schéma du début et à la création de ces potentiels postsynaptiques lorsque le neurotransmetteur s'est fixé sur ces récepteurs. Bien, les techniques électroencéphalographiques, magnétoencéphalographiques, qu'on appelle les méthodes électromagnétiques, en fait, captent ce signal. Vous avez dit comment on fait pour capter un signal comme ça qui est à l'échelon aussi microscopique à l'intérieur du cerveau. Ben, c'est parce que lorsque vous avez ces courants, puisqu'en fait ces mouvements d'ions sont des courants, quand vous avez ces courants dans les cellules, ils modifient localement le champ électromagnétique. Alors le champ électromagnétique, il a une propriété, c'est qu'il se propage à la vitesse de la lumière. Autrement dit, chaque fois que vous avez des courants qui apparaissent dans le cerveau, vous avez un changement de champ électromagnétique à l'extérieur du cerveau. Et donc, vous pouvez aller, comme on le verra plus tard, positionner des détecteurs pour détecter ces variations de champ électromagnétique. Ça, c'est les techniques magnétiques. Et je vous rappelle que ces événements sont des événements dont la constante de temps est l'ordre de la milliseconde. À l'opposé, le deuxième groupe de techniques, c'est les techniques hémodynamiques. Elles, ce qu'elles regardent, c'est les variations de débit sanguin. Vous vous rappelez, il faut restaurer les potentiels de membrane, on consomme de l'ATP, il faut ramener des choses pour fabriquer de l'ATP, donc il faut ouvrir les vaisseaux en grand. Eh bien, les techniques tomographie par émission de positons et IRM fonctionnelle observent ce phénomène à l'aide d'éléments qu'on appelle des traceurs, et on va voir ce que sont les traceurs de chacune de ces deux techniques. Alors commençons par les techniques électromagnétiques. Je crois que c'est bien de temps en temps d'aller vraiment dans le détail pratique de comment on fait des expériences avec ces techniques. Alors voilà, non, faites pas chut, c'est rien du tout là. Ce qu'on fait, c'est un petit casque genre sèche-cheveux, mais un peu plus perfectionné. Donc c'est des petites électrodes, mais qui ne rentrent pas dans la peau, qui sont posées sur le scalp. Alors il y en a de 32 à 128 dans les appareils les plus modernes, et chaque électrode a un petit fil. Et ce que va faire chaque électrode, c'est enregistrer à la surface du scalp les variations du champ électrique. Donc c'est un système très simple, et si vous regardez un enregistrement, donc ici ce que vous avez, chaque point correspond à une électrode, et si je prends cette électrode ici qui correspond à ce point-là, le petit tracé en rouge que vous avez ici, c'est la variation du potentiel électrique au cours du temps. Et si vous agrandissez, ben vous voyez qu'au cours du temps, donc ça c'est avant que le sujet fasse la tâche, là il démarre la tâche, et vous voyez apparaître des positivités et des négativités électriques, et ce qui est important c'est ça, c'est que vous avez vraiment un enregistrement à la milliseconde près, vous pourriez même faire mieux si vous vouliez, mais il n'y a pas tellement d'importance, puisqu'en fait les événements synaptiques sont de l'ordre de la milliseconde, mais vous pouvez donc suivre les variations de champ électrique qui sont associées à ces potentiels postsynaptiques à l'échelle de la milliseconde. Donc c'est des techniques extraordinaires sur le plan de la chronométrie des opérations mentales. Il y a une autre façon de faire ces méthodes électromagnétiques, c'est la magnétoencéphalographie. Alors là, vous savez que dans la théorie de Maxwell, un champ électrique, il y a toujours une composante magnétique. Donc l'EEG, ça détecte le champ électrique. La magnétoencéphalographie, ça détecte la composante magnétique du champ électromagnétique. C'est un peu plus compliqué parce que c'est très très faible, les variations de champ magnétique associé aux variations de champ électrique. C'est à peu près quelque chose comme 100 milliards de fois plus petit que le champ magnétique terrestre, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous agitez votre trousseau de clés à côté d'un gars qui est en train de faire une tâche cognitive et vous parasitez complètement le signal. Donc c'est des techniques un peu particulières avec des détecteurs très sensibles qu'on appelle des squids. Les gens sont placés dans une cage en cuivre pour pas qu'il y ait d'ondes de radiofréquence qui pénètrent dans la salle. Mais on arrive à faire des casques et à enregistrer donc sur plusieurs électrodes comme en EEG. Et on peut non seulement faire une analyse dans le temps, mais ce qui est très intéressant pour la suite des événements, c'est qu'on peut aussi faire une analyse des fréquences. Autrement dit, on n'est pas obligé de regarder simplement le décours temporel de l'activité électrique, mais on peut chercher si, dans ce décours temporel, il y a des oscillations ou des synchronisations de populations de neurones qui apparaissent. Et vous verrez que c'est un élément qui est très important et que probablement il y a, dans les activités cognitives, une composante qui n'est pas simplement le neurone se met simplement à envoyer plus de potentiel d'action, mais des cas où c'est des neurones qui se mettent à se mettre en phase, donc à se synchroniser, et ça peut se détecter avec les techniques électromagnétiques. Bon, vous allez dire, il n'y a qu'à s'arrêter là, il y a tout ce qu'il faut. Alors, il y a un problème, évidemment, c'est pour ça que ça va continuer, c'est qu'il y a un problème fondamental dans l'analyse de ce signal. Là, ce que vous avez, c'est, à une milliseconde donnée, le champ électrique tel qu'il se présente à la surface du scalp d'un sujet. Alors, évidemment, ce que vous voulez faire avec le G, c'est trouver où sont les sources. Où sont les neurones qui ont des potentiels postsynaptiques? Alors, vous avez des algorithmes extrêmement élaborés pour inverser ce qu'on appelle les équations de Maxwell et qui vont vous dire, voilà, avec un groupe neuronal ici et un vecteur de courant dans ce sens-là et un autre ici, ces deux vecteurs-là génèrent un champ électrique qui correspond à ça. C'est-à-dire, c'est fini. Le problème, c'est qu'il y a une infinité de solutions. Voilà. Donc, le problème fondamental des techniques électromagnétiques, c'est que vous ne savez pas combien ni où sont les sources électriques qui donnent naissance à l'activité que vous enregistrez. Et donc, vous voyez qu'on n'a fait que la moitié du chemin. Ces techniques-là montrent le moment où se produisent des choses. Elles ne peuvent pas vous révéler combien il y a de sources, ni où elles sont, et donc elles ne peuvent pas vous montrer le réseau anatomique et fonctionnel qui est sous-jacent. Et c'est pour ça qu'un deuxième groupe de techniques s'est développé autour de la réponse hémodynamique, la réponse vasculaire. C'est en fait c'est une vieille connaissance, cette réponse vasculaire. En 1800, je n'ai pas mis la diapo parce que je ne voulais pas dépasser, mais il y a Mosso, qui était un neurologue italien, qui faisait des expériences sur le sacristain de sa ville. Et il avait l'idée qu'effectivement, il y avait des pulsations vasculaires qui devaient être associées aux activités cérébrales. Et donc, il avait un sacristain qui avait la fontanelle qui n'était pas fermée. Et donc, il lui avait mis une espèce de petite membrane avec un tuyau. Et au bout, il y avait un tube à mercure, genre Torricelli. Et donc, il avait fait des expériences sur son gars. Par exemple, quand le type avait oublié de sonner l'Angélus, il disait « Est-ce que tu as sonné l'Angélus ?» Et le gars devenait tout énervé et on voyait des enregistrements finalement qui apparaissaient. Et Mosso, historiquement, est le premier en fait, qui a observé des variations d'activité vasculaire en rapport avec des émotions ou des activités cognitives. Il lui avait fait faire aussi 3 fois 6, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et en fait, l'aspect scientifique de la chose, il a été fait par des neurochirurgiens anglais dans les années 90, Charles Sherrington, et il disait, en substance, que les produits chimiques qui proviennent du métabolisme cérébral, c'est cet ATP, ADP, etc., consommation d'énergie, et qui sont contenus dans la lymphe, c'est-à-dire le liquide qui entoure la paroi des artérioles, peuvent engendrer des variations du calibre de ces artérioles. Autrement dit, le cerveau a un mécanisme qui, à partir des produits de dégradation de son activité, va engendrer une augmentation de débit à l'endroit où l'activité fonctionnelle s'est produite. Bon, il va falloir attendre assez longtemps avant que Louis Sokolov au NIH, dans les années 60, fasse des expériences en injectant un produit qui va rester dans le sang, qui va pouvoir être détecté et qui va montrer en fait quel est l'état du débit sanguin à un moment donné. Donc là, vous avez 2 conditions, c'est des études qui ont été faites chez le singe. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner les détails, ce n'est pas le moment, mais ça nécessitait donc l'euthanasie de l'animal, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être facilement étendus chez l'homme. Et vous avez ici donc 2 singes, un qui est dans l'obscurité et un qui a un flash, une stimulation visuelle à 6 Hz dans les yeux. Là, vous avez le pôle occipital, donc l'arrière de son cerveau, et vous voyez qu'entre ces 2 conditions, eh bien, on observe une augmentation de signal. Le signal, en l'occurrence ici, c'est un traceur radioactif qui est injecté dans la circulation du singe et qui, ce signal radioactif, va se distribuer dans le cerveau en fonction de l'activité, d'après le principe de Sherrington. Et là où l'activité augmente, donc dans le cortex visuel, eh bien, il y a plus de radioactivité. Voilà. Donc en 60, on savait qu'on pouvait le faire en découpant le cerveau en morceaux. Évidemment, il a fallu trouver une façon de le faire chez l'homme. Et en fait, la technique qui permet de faire ça chez l'homme, c'est la tomographie par émission de positons. Alors, très brièvement, cette technique, c'est le même principe. On va fabriquer un produit très simple, c'est de l'eau, H2O, sauf que vous allez remplacer l'oxygène 16, qui n'est pas vraiment détectable par voie externe, par de l'oxygène 15 radioactif. Donc, pour ça, vous prenez un cyclotron, fabriquez l'oxygène 15, faites barboter avec de l'hydrogène, et vous avez de l'eau marquée à l'oxygène 15. Je vous rassure, on injecte des quantités qui sont, on appelle, à dose traçante, c'est-à-dire dont la dose donnée au patient est l'équivalent de ce que vous prenez en allant 2 mois dans le Larzac. Donc, vous injectez ça à votre sujet pendant qu'il fait la fonction qui vous intéresse, une tâche de langage, par exemple. Et puis, vous entourez la tête du sujet avec une caméra, mais une caméra un peu particulière. C'est une caméra qui va détecter les rayonnements qui sont émis par les oxygènes 15 au moment où ils se désintègrent. Parce qu'un noyau radioactif, à un certain moment donné de sa vie, ça se désintègre. Et un oxygène 15, ça se désintègre en donnant une paire de photons gamma qu'on détecte avec cette caméra. Et avec ces enregistrements, on fabrique des coupes, alors là, c'est des coupes entre guillemets, hein, ce n'est pas les coupes de Sokolov, c'est des coupes entre guillemets, donc des images numériques dans lesquelles la quantité de radioactivité à un endroit donné reflète l'activité de cette région. Donc ici, c'est, vous voyez que les images sont pas, l'impression qu'elles ne sont pas terribles, mais c'est des images d'un cerveau humain vivant, et vous voyez que la radioactivité se distribue essentiellement en périphérie, parce que c'est là que se situe le cortex, et c'est le cortex qui est le plus vascularisé. Comment on utilise cette technique maintenant pour faire des cartes cognitives, donc pour trouver les réseaux qui sont mis en jeu dans des fonctions cognitives. Alors, voilà l'installation qu'on a à Cicéron, à Caen. Alors, en gros, voilà la caméra. Alors, vous ne la voyez pas parce qu'en fait, il y a une chambre noire de part et d'autre, de façon à ce que le sujet ne soit pas parasité par des afférences extérieures. Et puis, si vous imaginez une petite fenêtre dans la tenture, vous verrez donc la tête du sujet, le sujet allongé sur le dos, il a un miroir, et puis il regarde dans son miroir un écran d'ordinateur qui lui envoie des stimulus. Ici, un stimulus normand, typique. On l'a fait pour de vrai. Hein. C'est pas... Alors, comment ça se déroule une expérience de ce type? Alors, voilà comment on fait. On commence par faire une première mesure du débit, des images de débit, pendant une condition contrôle. Alors, chez nous, la condition contrôle, c'est ce qu'on appelle le repos. C'est le repos, le sujet a comme tâche d'éviter d'avoir une activité mentale structurée. Il s'empresse d'avoir une activité mentale, mais comme il sait qu'elle ne doit pas être structurée, il fait plein de choses. C'est un espèce de mouvement brownien mental, si vous voulez. Et on lui injecte la radioactivité, on fait tourner la caméra pendant 2 minutes, et on fait cette première carte d'activité cérébrale. Évidemment, comme il y a de la radioactivité, on ne peut pas le réinjecter tout de suite. Mais heureusement, l'oxygène 15, ça a 2 minutes de période radioactive. C'est aussi pour ça que ce n'est pas dangereux à utiliser chez l'homme. Ce n'est pas le césium ou l'iode. Et donc, au bout de 8 minutes, on peut le réinjecter. On lui dit, cette fois maintenant, tu vas nous faire la génération de verbes dont je vous ai déjà parlé. Donc, le sujet génère des verbes pendant 2 minutes, et on fait une deuxième carte de son débit. Donc là, maintenant, on a des images d'activité cérébrale pendant que le sujet fait une autre tâche. Bon, puis on peut continuer. Par exemple, on peut lui proposer, ensuite, lui après, d'écouter une histoire. Quand on veut opposer, par exemple, une tâche de production de langage à une tâche de compréhension de langage. Et puis, on peut répéter ça. On peut répéter les mesures, on peut aller jusqu'à 12 mesures chez un sujet. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? On a un paradigme essentiel qui est le paradigme de différence. Ce qu'on va dire, c'est que entre deux tâches, si je soustrais les activités cérébrales, c'est le principe de Sherrington, eh bien, va apparaître dans la différence les régions qui ont augmenté leur débit, donc celles qui ont travaillé pour effectuer la deuxième tâche. Donc, je prends mes images de contrôle, donc toutes celles que j'ai, je les additionne, je prends mes images de génération de verbes, je les additionne, et je fais la soustraction, et j'observe une carte ce qu'on appelle une carte d'activation. Donc ces taches de couleur que vous voyez ici, c'est les zones du cerveau du sujet qui ont augmenté leur débit pendant que le sujet faisait la génération de verbes par rapport au repos. Alors nous, on est venu les reprojeter sur l'image anatomique du cerveau pour savoir un petit peu où on était. Donc voilà le principe, en gros c'est ça le principe des techniques hémodynamiques, c'est de montrer par différence les régions qui augmentent leur débit sanguin cérébral. Évidemment, il y a des problèmes. Bon, là on voit bien qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, on voit ça chez la région de Broca, hein, vous savez, la région qui est abîmée chez M. Lerborg, ben, chez lui elle n'est pas abîmée et elle fonctionne très bien. Mais vous voyez qu'il y a d'autres régions, bon, on se dit c'est joli ces images, mais ça a un côté un peu comme ça, avec des petites taches, est-ce qu'il est sûr que ça c'est vraiment significatif, c'est pas simplement du bruit. Alors on a le problème qu'ont tous les gens qui font un petit peu d'expérimental, c'est qu'on aimerait bien additionner plusieurs sujets de façon à améliorer ce qu'on appelle les statistiques. Alors c'est facile de moyenner, faire la moyenne de chiffre de tension artérielle ou de prélèvement sanguin, mais là on est parti pour moyenner des cerveaux. C'est un peu plus compliqué, parce que comment vous faites quand vous prenez 4 sujets, voilà 4 sujets, et que vous voulez moyenner les images de 4 sujets. Vous voyez, 4 sujets, 4 têtes différentes. Ici, il y a 500 sujets, 500 têtes différentes. Donc comment on va faire? Ils n'ont pas la même taille, c'est pas la même taille, ils ne sont pas orientés pareil, pas les mêmes structures disposées exactement pareil, il faut trouver un système pour les normaliser. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits ces 10 dernières années pour essayer d'avoir ce qu'on appelle, nous, le cerveau standard. Un cerveau standard n'est pas à recommander à tout le monde. C'est un artifice, on s'entend. C'est un cerveau qu'on utilise et sur lequel on vient déformer, par un ordinateur, les cerveaux de chaque individu de façon à ce qu'ils viennent s'aligner en taille et en position sur le cerveau standard. Et une fois que vous avez chacun des 4 individus positionnés dans le cerveau standard, évidemment, ça devient simple. Il suffit d'en faire la moyenne. Et vous retrouvez donc une image, une carte d'activation moyenne dans un groupe de sujets, où vous retrouvez donc ce réseau que je vous ai montré au tout début, un réseau de régions, où vous retrouvez en particulier cette aire donc qui est dans le pôle antérieur du langage, dans le gyrus frontal inférieur gauche, qui est en fait l'aire que M. Le Borgne avait abîmée au cours de son accident vasculaire cérébral. Alors vous dites, ben, on n'a pas montré grand-chose. Ben si, on a montré quelque chose de très important. D'abord, on a montré que cette aire, bon, elle était détruite, la fonction est perdue, ben nous ce qu'on montre c'est que quand le gars fait la fonction, l'air s'active. Bon. Et puis, il y a une grosse différence, c'est que dans cette expérience, le sujet ne prononce jamais les verbes. Donc c'était une tâche de génération silencieuse, le sujet doit penser les verbes dans sa tête, il ne doit jamais les prononcer. Et donc c'est à la fois intéressant de retrouver la région de Broca, mais ça montre aussi que dans cette région, il se passe des choses qui n'ont rien à voir avec le phénomène d'articulation du langage. Alors, quels sont les problèmes avec la tomographie à positon? Pendant 10 ans, ça a été la technique de référence. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'expériences, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de limites. D'abord, on ne peut faire que 12 mesures par sujet. Donc, 12 mesures par sujet, ce n'est pas beaucoup, on est obligé de moyenner les sujets. Quand on moyenne les sujets, on est obligé de déformer les images, ce n'est pas exactement les données de départ. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne peut faire une mesure que toutes les 8 minutes. C'est assez nul par rapport à l'électroencéphalographie, on observe à la milliseconde. Donc faire une tâche pendant 2 minutes, déjà c'est difficile, mais après attendre 8 minutes pour faire la tâche suivante, c'est pas terrible. Et puis il y a le problème de la radioactivité, c'est pas que c'est un problème en soi pour le sujet, mais c'est un problème pour le personnel, Et puis, il faut la produire. Et un cyclotron, ce n'est pas un appareil qui ne coûte rien. Donc, cette technique, en fait, ce n'est pas beaucoup disséminée en France. Il n'y a que 3 centres, en fait, en France qui ont été équipés. Et dans les années 95, le deuxième miracle s'est produit, c'est que les gens qui avaient mis au point la technique d'imagerie par résonance magnétique pour l'anatomie dans les années 80 se sont aperçus qu'on pouvait aussi faire de l'imagerie fonctionnelle avec cette technique. Tout petit peu de physique, sans équation, juste pour vous expliquer comment ça marche, parce que c'est quand même important. L'idée, c'est ça. Vous prenez un aimant, mais un aimant, hein. 1,5 Tesla, 10 000 fois champ magnétique terrestre. Donc là, il ne faut pas rentrer avec, avec son trousseau de clé ou son stylo en fer, parce que le stylo part dans l'aimant. Hein. Donc un champ très puissant, sans danger pour la santé, je vous rassure. Et quand vous mettez le cerveau d'un sujet dans un champ puissant comme ça, bien les noyaux d'hydrogène de ces molécules d'eau, les H, donc cette fois, ce n'est plus les oxygène 15, mais c'est les noyaux des protons, vont faire comme des aiguilles d'un aimant. Elles vont s'orienter dans le sens du champ magnétique. Donc tous les protons s'alignent dans le sens du champ. Bon, jusque-là, rien de bien spectaculaire. Prenez une petite antenne radio, comme une antenne radio, de modulation de fréquence, et la voilà, cette antenne. Et là, vous allez envoyer, perpendiculairement au champ principal, une onde radio qui est choisie d'une façon très particulière, qui est choisie pour provoquer ce qu'on appelle la résonance de ces protons, donc de ces noyaux d'hydrogène. Et bien, cette onde radio va basculer ces petites aiguilles magnétiques pour les mettre perpendiculaires au champ. Et après, quand vous allez couper l'onde radio, et bien évidemment, tout ça va revenir gentiment à sa position d'équilibre, mais en émettant à son tour une onde radio que vous allez collecter de votre antenne. Ça va vous donner un petit courant alternatif, mais un petit courant alternatif qui s'atténue au cours du temps en fonction de l'environnement chimique des protons, des noyaux d'hydrogène. Et donc, ce qu'on mesure en résonance magnétique, c'est cette atténuation, c'est la petite constante de temps de décroissance du courant dans l'antenne. Ça s'appelle le temps de relaxation, c'est un joli nom. Et ce temps de relaxation, qu'on note T2 étoile, on peut en faire des cartes qui vont dire, en chaque endroit du cerveau, d'accord, quelle est la constante de relaxation. Jusqu'ici, on ne voit pas le rapport avec le fonctionnel. Oui, mais revenons sur nos capillaires. Hein, je vous rappelle, on s'intéresse à la réponse vasculaire. Revenons sur nos capillaires. J'ai dit, les capillaires, c'est eux qui vont amener au cerveau l'oxygène et le glucose. Donc, à l'état contrôle, eh bien, le sang arrive chargé en oxygène. L'oxygène est accroché à une molécule qui s'appelle l'hémoglobine. Et ça arrive saturé à 100%, c'est du sang bien rouge, hein, sang oxygéné. Et puis, il y a un petit peu d'oxygène qui va partir en fonction des besoins du tissu. Et l'hémoglobine bien rouge, là, qui est figurée en rouge, va se transformer en ce qu'on appelle la déoxyhémoglobine. Donc, en gros, à la sortie d'un capillaire veineux, il y a 60% d'oxyhémoglobine, 40% de déoxyhémoglobine. Attends, il y a une différence fondamentale entre les deux. L'oxyhémoglobine, l'oxygène est lié à un atome de fer qui est au milieu de la molécule. Dans la déoxyhémoglobine, l'oxygène est parti, et à ce moment-là, il y a un ion ferreux qui est, si vous voulez, révélé. Et cet ion ferreux, il va avoir une propriété principale. Quand vous mettez du fer dans un champ magnétique, vous avez fait ça en classe de 5e, d'accord, vous changez les lignes de champ. Vous vous rappelez de ça, vous prenez la limaille de fer, vous voyez, ça s'oriente suivant le champ magnétique. Vous pouvez faire ça ce soir chez vous avec un morceau de cuivre, en vous méfiant quand même. Et dans une situation d'activation, je vous ai dit, le débit augmente. Donc le calibre des artérioles augmente, le débit sanguin augmente, la consommation d'oxygène augmente. Qu'est-ce qui se passe pour la déoxyhémoglobine? Il se passe quelque chose de paradoxal. C'est que le débit augmente beaucoup plus qu'il n'est vraiment nécessaire pour compenser la consommation d'oxygène. Je vous rappelle que l'augmentation de débit, elle est là pour amener l'oxygène et le glucose qui va refabriquer l'ATP. Or, ce qu'on constate, c'est que le débit augmente beaucoup plus qu'il n'est vraiment nécessaire. Conclusion, vous avez beaucoup plus de sang oxygéné qui arrive dans les vaisseaux et pas tellement de déoxyhémoglobine qui réapparaît. Au total, vous avez moins de déoxyhémoglobine dans la situation activée que dans la situation contrôle. Alors, comme la déoxyhémoglobine contient cet ion fer, ferreux, qui modifie le champ magnétique, vous allez observer à l'endroit où vous avez ces augmentations de débit, vous allez observer une augmentation de votre T2 étoile, donc de ce temps de relaxation de vos protons. Alors, exemple pratique. Voilà un sujet, vous voyez ici par la tête, avec son antenne, le champ, et vous voyez qu'on lui est en train de lui passer un stimulus visuel, on lui projette sur un écran, et il voit dans un petit miroir ici le stimulus sur l'écran. Alors, voilà le protocole. Ce que vous voyez ici, c'est la carte de T2 étoile, donc à l'état contrôle. Et ce que vous allez voir ici, c'est la différence entre la carte de T2 étoile pendant l'état par rapport au contrôle. Donc, quand il a les yeux fermés, il ne se passe rien, tout ça est du bruit. Et puis, quand vous allumez la lumière, ou plutôt quand vous lui dites « ouvrez les yeux et regardez l'écran », vous voyez ici ces petites augmentations dans le pôle postérieur, là, c'est l'arrière de sa tête. Il y a des augmentations de signal, donc des augmentations du temps de relaxation, chaque fois qu'il ouvre les yeux, qui disparaissent quand il ferme les yeux. En fait, si vous venez regarder très précisément ce qui se passe dans le pôle postérieur, donc dans le cortex occipital, qui contient les aires visuelles, bien vous voyez qu'en fonction du temps, donc ici, vous pouvez imaginer que ce que vous avez, en fait, c'est le temps de relaxation, autrement dit, c'est l'inverse de la concentration en sang déoxygéné. Vous voyez que quand il a les yeux fermés, le signal est stable. Il dit ouvrez les yeux, regardez le stimulus, le signal monte. Fermez les yeux, il redescend. Ouvrez les yeux, ça remonte. Fermez les yeux, ça descend. Alors là, on a quand même, par rapport à la tomographie à positon, quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il n'y a rien injecté. La déoxyhémoglobine, c'est ce qu'on appelle un traceur endogène. Tout le monde a de la déoxyhémoglobine. On l'observe en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre, c'est automatique. Vous l'observez au fur et à mesure que sa concentration se modifie. Et surtout, vous avez une échelle de temps, je vous rappelle ici, vous avez par exemple ici à peu près 60 mesures, donc 60 images qui sont faites en un temps qui fait à peu près 4 minutes. Dans le même temps, en tomographie à positon, vous avez une seule image. Et donc, il y a un gain phénoménal qui est dû au fait qu'on n'a plus de radioactivité à mesurer, donc pas de période à attendre, et un enregistrement en temps réel du paramètre physiologique. Bon, ce qui est clair, par contre, c'est qu'on n'a pas la résolution temporelle, la précision dans le temps des techniques électromagnétiques. Pourquoi ? Vous voyez bien qu'il faut un certain temps, il faut une à deux secondes pour que le débit monte lorsque le sujet ouvre les yeux. Pourquoi ? C'est pas simplement parce qu'il y a un phénomène d'inertie vasculaire. Ça va beaucoup plus vite de transporter le courant électrique que d'augmenter le diamètre d'un tuyau. Ça, vous pouvez faire ça aussi chez vous ce soir. Alors, si vous prenez maintenant comme indice le fait que vous regardez point par point dans le cerveau, si la courbe de signal suit votre paradigme expérimental. Autrement dit, vous cherchez les points qui sont constants et à zéro lorsque le sujet a les yeux fermés et qui montent lorsqu'il a les yeux ouverts. Là, vous allez trouver une série de points dans le cerveau en 3D qui vont donc représenter les zones dans lesquelles la déoxyhémoglobine a diminué pendant que le sujet faisait la tâche cognitive. Et ces cartes cognitives qui sont obtenues par IRM fonctionnel sont maintenant en fait des cartes qui sont la référence. On continue à utiliser la tomographie à positon pour les centres qui l'ont, mais l'IRM fonctionnel maintenant, pour des raisons évidentes, à la fois simplicité, sécurité, mais aussi par le fait qu'en fait vous pouvez aller faire vos expériences dans pratiquement n'importe quel hôpital, parce que les IRM sont des appareils qui sont utilisés en routine clinique à l'hôpital, eh bien ça a permis une dissémination extrêmement rapide, fulgurante de la technique, et je crois que l'avenir appartient au couplage, comme on le verra, de cette technique avec les techniques électromagnétiques. Alors, quelques exemples. Il y a 250 papiers par an qui sortent sur les fonctions cognitives et leur architecture macroscopique, et on ne peut pas faire le panorama de ça, d'autant que je crois que dans les exposés qui vont venir, dans la suite de la semaine, vous allez avoir des exemples qui vont vous être donnés, pratiques d'utilisation de ces méthodes pour les réseaux de la cognition. Moi, ce que je vais me focaliser, c'est sur trois exemples, rapidement, pour vous montrer quand même la révolution intellectuelle, ce que c'est, et que vraiment, ça apporte quelque chose de nouveau au débat des relations entre la pensée et la matière cérébrale, parce qu'on a maintenant des méthodes qui permettent de regarder le cerveau quand le sujet pense, mais je veux dire pense pour de vrai. C'est pas l'expérience. Vous parlez à quelqu'un, vous lui dites faites-moi ça, réponds-moi. Ces espèces d'expériences stimulus-réponse qui sont presque à la limite de l'acte réflexe. Là, vous pouvez mettre un sujet dans une machine, le laisser tranquille, lui dire fais ça, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin d'écouter rien que ça, pense. Et vous pouvez observer son cerveau et vous verrez que il y a effectivement une pensée qui est localisée et qui n'est pas complètement disséminée ni complètement séparé de la matière cérébrale. Alors, premier exemple, le langage. Je reprends ma tâche de génération de verbes. Voilà mon sujet avec ses petits écouteurs, les yeux fermés. La tâche, c'est il entend un mot, il pense à des verbes qui sont en rapport avec ce mot. 10 secondes après, il entend un autre mot et continue de penser à des verbes. Quand vous faites l'analyse de cette expérience en moyenne, vous trouvez sur une coupe ici qu'on appelle axiale, l'avant du cerveau ici, la gauche et l'arrière, vous allez trouver une activation d'aire de Broca, bien que le sujet ne prononce pas les verbes, il les pense seulement, et vous allez trouver aussi une activation de l'aire de Wernicke, vous savez, c'est le pôle postérieur de la compréhension, et donc vous trouvez un petit réseau, qui est un réseau du langage, un réseau d'air qui est assez essentiel, et qui prouve que l'aire dite de Broca, qu'on ne devrait plus appeler comme ça, en fait, est une aire qui est complexe et qui n'a pas que des fonctions articulatoires. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qui se passe si on avait pu analyser les données sujet par sujet. Alors, voilà 4 des 8 sujets. Donc, lui, il a bien... Oh, elle est petite, mais elle existe, à gauche. Lui aussi. Ah, ben, voilà un qui arrive à droite. Voilà, il y a quelque chose quand même de bizarre. Vous avez 4 sujets droitiers, parfaitement droitiers, y compris dans la famille, et vous avez ici l'illustration d'une autre variabilité. On avait vu la variabilité anatomique, il fallait déformer les cerveaux pour les aligner, mais là, c'est quelque chose de plus subtil. C'est quelqu'un qui a été codé pour une raison X ou Y, on n'a pas la réponse pour l'instant, qui a été codé le langage dans l'hémisphère contralatéral. Dans l'hémisphère droit. Bon. Pourquoi? On ne sait pas. Ça peut être génétique, ça peut être environnemental. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ce qui est amusant, c'est qu'il l'a quand même codé dans le symétrique de la raison des autres, y compris pour son aire de Wernicke. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a le langage à droite. Ça existe. Une étude assez amusante aussi, c'est une étude qui a été publiée il y a 2 ans, une étude américaine en IRM fonctionnel, qui a comparé les hommes et les femmes pour cette tâche de langage, justement, de génération. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les hommes utilisent plutôt leur hémisphère gauche, l'aire de Broca, on va dire encore aire de Broca, à gauche. Par contre, les femmes, elles utilisent les deux. Bon, pourquoi? C'est le mystère. Mais c'est ce type d'observation sont des observations complètement nouvelles. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi les choses sont comme ça qu'il ne faut pas les chercher. Bien d'accord. Sinon, on ne fera pas grand-chose. Deuxième exemple, alors de pensée vraiment pure aussi. Imagerie mentale. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de linguistes dans la salle. Il y a d'autres formes d'activité mentale que le langage. D'accord ? Il y a une activité mentale qui est basée sur les images. Et l'imagerie mentale, c'est cette capacité que vous avez de pouvoir faire apparaître dans votre cerveau des images. Fermez les yeux, pensez à votre appartement et allez de la cuisine à votre salle à manger. Vous pouvez faire ça et avoir des images de votre appartement dans le cerveau. Vous n'y êtes pas dedans et vous ne le voyez pas. Donc vous avez une capacité mentale qui s'appelle l'imagerie mentale. Alors nous, Emmanuel Mélé, qui est un chercheur du laboratoire, a fait avec Michel Denis du CNRS des expériences pour savoir si les images mentales et les images perçues avaient ou pas les mêmes bases. Alors ils ont fait l'expérience suivante. Prenez un sujet dans la caméra, vous lui montrez un petit écran sur lequel il y a une petite île imaginaire. Et vous lui dites, bon, explorez l'île. Donc le gars regarde l'île. Et quand vous faites la mesure de son débit sanguin cérébral et des zones qui s'activent, alors c'est une présentation un peu différente. Ici, c'est l'avant et là, l'arrière du cerveau, là, le haut. Et on a projeté tout ensemble tout ce qui est activé. Mais vous voyez qu'il y a un gros pôle postérieur qu'on a déjà vu 4 fois dans l'exposé. Ce sont les aires visuel. Et puis, il y a des activations dans ce qu'on appelle la voie ventrale. Ce sont des régions qui sont dans la partie basse du lobe temporal et qui sont en fait responsables de la représentation des objets, des caractères figuratifs. Et puis, vous avez une voie dorsale, donc des activations qui partent vers le haut et qui, elles, c'est des aires qui sont plutôt responsables de la localisation des objets dans l'espace. Bon, très bien. Alors maintenant, vous prenez le même sujet, vous le mettez dans le noir, vous le laissez tranquille, tu lui dis maintenant, d'accord, on va commencer, tu te représentes l'île que tu as apprise et tu l'explores mentalement. Donc, le gars doit faire son parcours mental sur une image de l'île. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il n'y a plus ces aires visuelles. Bon, il y a un débat, pour être honnête, là-dessus. Mais nous, on ne les a pas observées. Par contre, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'aires communes, activées à des degrés différents. Mais ces images mentales, l'imagerie mentale et la perception visuelle partagent un certain nombre de bases neurales qui sont communes. Or, dans cette activité ici, c'est une activité vraiment de fonctionnement autonome du cerveau, sans stimulus et sans réponse. La petite dernière, quelque chose d'intéressant, c'est le raisonnement. Alors, il y a dans la salle le professeur Houdet de la Sorbonne, qui vous a fait un exposé, je crois qu'il y a 10 jours, sur le développement d'intelligence chez l'enfant. Et avec lui, on a commencé des études sur le raisonnement et les processus d'inhibition cognitive. Et alors, son protocole, il est particulièrement intéressant parce que c'est un protocole dans lequel les sujets vont toujours avoir le même stimulus visuel. Ils vont toujours avoir la même tâche cognitive. Donc, on va leur demander de toujours faire le même raisonnement, et ils vont toujours donner la même réponse. Et pourtant, on va observer un phénomène assez extraordinaire qui est l'apprentissage, c'est-à-dire que des réseaux cérébraux vont se modifier parce qu'il va effectuer la même tâche sur le même stimulus avec des stratégies différentes. Alors, exemple. Voilà la tâche, je ne vous la détaille pas, c'est une tâche dans laquelle le sujet est piégé, c'est une tâche de logique, et en fait, on le biaise, on l'entraîne involontairement à mal répondre à une tâche de logique. Donc, évidemment, il se gourre complètement, 100% d'erreur, et il se gourre, et c'est pas neutre ces images, il se gourre parce qu'essentiellement, il fait le travail sur le stimulus visuel avec ses aires perceptives. hein, vous savez, les aires qu'on vient de voir dans la perception du pôle postérieur. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous entraînez le sujet, vous lui dites « Attention, en fait, on t'a piégé. Dans l'énoncé logique, il y a quelque chose qui fait que tu réponds mal. » Et vous lui apprenez ça, mais sur un autre type de matériel expérimental. Donc là, ça, c'est la première heure. On le sort une demi-heure de la machine et on le remet dans la machine. Et maintenant, tu refais la même tâche, le même stimulus, et cette fois, il répond bien, et ce n'est plus les mêmes régions cérébrales qui sont mises en jeu. On dit là, ce qu'on a, c'est une stratégie de réponse à un problème donné. Cette stratégie conditionne complètement le réseau neuronal qui va être utilisé. Il a toujours la même entrée, il a toujours la même sortie, il a toujours la même tâche, mais stratégiquement, au niveau de son raisonnement, là, il fait pas n'importe quoi, là, il est biaisé par ce qu'il perçoit, et là, il sait qu'il doit faire attention et qu'il doit raisonner et trouver la bonne réponse. Et, bon, on ne va pas faire de philologie, mais ce n'est pas neutre que ce soit justement ce lobe frontal, la partie la plus développée chez l'homme, qui soit utilisée pour faire certaines tâches et vraisemblablement pour aller inhiber les régions dans lesquelles on fait le travail purement perceptif. Alors, je termine avec quelques perspectives. Pour y avoir l'impression que tout est fini, mais ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est quand même d'essayer de transférer ces nouvelles données dans le monde de la médecine. Il y a une application qu'on développe à Caen avec les neurochirurgiens et les neurophysiologistes. C'est l'utilisation de ces méthodes qui permettent de repérer des aires fonctionnelles dans une stratégie de localisation préopératoire. Quand des sujets doivent être opérés, jusqu'ici, les chirurgiens ne disposaient pas d'informations fonctionnelles pour savoir si, quand ils allaient passer à travers le cortex, ils allaient toucher ou pas une région fonctionnelle chez ce sujet et donc entraîner des déficits post-opératoires. Or là, maintenant, on peut fournir aux neurochirurgiens des images de synthèse, mais qui sont des images de synthèse à partir d'images acquises chez les sujets et dans lesquelles on intègre à la fois l'anatomie, la localisation de la tumeur et les aires responsables, par exemple ici, de la motricité de la main droite chez ce sujet. Et donc, qui permettent aux chirurgiens, en salle d'op, avec ces images dans une console d'ordinateur en salle d'opération, de définir son trajet opératoire au mieux. La deuxième perspective, que je vous ai déjà un petit peu annoncée, c'est qu'on a donc ces techniques électromagnétiques qui répondent en gros à la question « quand est-ce que ça se passe ?» On a les techniques hémodynamiques qui répondent à la question « où est-ce que ça se passe ?» Évidemment, ça serait vraiment intéressant de mettre les deux ensemble et d'avoir une technique qui dit quand et où ça se passe. Et pour ça, il faut être capable de mettre ensemble ces deux types de signaux, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on ne peut pas facilement enregistrer des signaux électriques très très fins dans un appareil où il y a 15 000 fois le champ magnétique terrestre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une image qui a été faite par Marc Joliot du laboratoire, et c'est un protocole dans lequel, en fait, les sujets sont vus à deux temps différents. Ils font la même chose, mais une fois, ils la font dans la caméra positon, donc ça, c'est les tâches d'activation, si vous voulez, et l'autre fois, ils la font dans un magnétoencéphalographe. Et cette fois, on a reconstruit chez les mêmes sujets et on a projeté ensemble leur zone d'activation hémodynamique avec la reconstruction des dipôles électromagnétiques responsables des champs électromagnétiques enregistrés. Ce n'est pas parfait, c'est une première étape, mais ça montre déjà une chose importante, bon, qu'on savait par ailleurs, mais ça le montre in vivo, c'est que vous avez ici sur cette plan-coupe deux régions principales, une médiane et une latérale ici. Ça, c'est une aire qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire, et apparemment, cette aire, si vous voulez, déclenche son activité 100 millisecondes avant le mouvement. C'est une aire de préparation du mouvement. Et cette aire qui est ici, qui est en fait l'aire sensorimotrice des doigts, c'est une tâche motrice, elle, c'est une aire qui décharge et reçoit donc son activité électrique après le mouvement. Donc on a, c'est un tout début, hein, c'est très élémentaire, mais on a déjà l'idée qu'on pourra à terme obtenir vraiment une cartographie spatio-temporelle des fonctions cognitives. Bon, alors un petit peu de science-fiction, un tout petit peu. Alors cet axe, c'est, évidemment je vous ai dit, il y a plein de niveaux d'architecture, fonctionnels, macroscopiques, etc. Et vraiment l'idée, c'est à terme de coupler tout ça. Parce qu'on a tous tendance à vendre nos machines, notre salade et nos résultats. Et en fait, le cerveau a ces différents niveaux d'architecture et je crois que la connaissance, elle progressera quand on les aura mis ensemble et quand on aura compris ce que fait en fait réellement chaque niveau. Alors il y a déjà une entreprise financé par l'Union européenne, pour essayer de mettre ensemble le niveau cellulaire, donc où on fait des cartes, si vous voulez, microscopiques de la distribution des cellules, qu'on essaye de coupler avec le niveau macroscopique. Ce n'est pas évident parce que les cartes microscopiques, c'est forcément post-mortem, alors que les cartes fonctionnelles, c'est forcément in vivo. Et donc, c'est un peu compliqué de mettre ces cerveaux-là ensemble, surtout que ceux-là, ils sont tranchés tous les 10 microns, et ceux-là, ils sont entiers, heureusement. Mais il y a des techniques qui sont développées au sein de ce consortium pour essayer de mettre ces deux niveaux ensemble. Évidemment, ce qui serait idéal, d'accord, c'est de partir vraiment des cartes des gènes et d'aller jusqu'au comportement. Et il y a un consortium qui s'est constitué ces 3 dernières années aux États-Unis qui commence à collecter des données chez l'homme où on a à la fois des prélèvements d'ADN, on a à la fois des cartes microscopiques qui sont obtenues ex vivo, on a des cartes fonctionnelles et on a des performances comportementales. Interprétez pas cette diapositive pour dire que tout le comportement vient des gènes. Je suis personnellement complètement de l'autre école, mais je crois que c'est justement pour savoir ce qui vient des gènes, il faudra être capable de mettre tout ça ensemble. Je voudrais juste terminer, je crois que c'est important, comme ça a été présenté, c'est le travail d'une équipe qui a commencé il y a 10 ans, je voulais les citer, Nathalie de Souriau-Mazoyer, qui est mon alter ego, et puis Marc Joliot, Laurent Petit, Fabrice Crivello et Emmanuel Mellet, qui sont positionnés sur la région qu'ils étudient particulièrement dans le laboratoire, et qui ont tous fait que cette conférence a pu être possible. Merci.
Merci Bernard Mazoyer. Je pense que ça a mis les cerveaux en état d'excitation et que le passage du côté des synapses se fera rapidement. Juste le temps que vous récupériez assez d'oxygène et, pour nourrir. Quand vous passez les micros, vous reprenez les micros pour le donner aux personnes suivantes de façon à ce que nous ayons le maximum de questions. Je vous prie d'excuser par avance les personnes qui ne pourraient pas poser de questions puisqu'il faut que nous arrêtions à moins le quart précisément. Voilà. Qui souhaite parler ? Monsieur, là, vous donnez le micro là, ce monsieur.
Ici. Est-ce que l'un des derniers protocoles d'expérimentation que vous nous avez présenté, donc comparaison d'un exercice biaisé avec injection des bonnes données après, est-ce que dans ce protocole-là, il y a aussi une comparaison c'est une comparaison première tentative échec, deuxième tentative succès. Est-ce qu'il y a des comparaisons première tentative échec, première tentative succès ? Qui permettrait de faire apparaître, parce que bon, c'est vrai que ce qui apparaît d'intéressant dans là, c'est le basculement en quelque sorte de la localisation des fonctions. Est-ce qu'il y a ce type de comparaison-là ?
Je me demande si ce n'est pas vous qui avez reviewé notre papier. Là. Oui, parce qu'il faut constituer effectivement des groupes qui soient homogènes vis-à-vis de la tâche. Donc la première étude, on a pris des gens qui étaient biaisés, et effectivement, il y a un groupe maintenant qui va être pris de gens qui sont au départ non biaisés. Maintenant, ceux-là, le problème, c'est que vous n'allez pas observer la bascule, parce qu'ils ne sont pas biaisés avant, ils ne sont pas biaisés non plus, vous n'avez pas besoin de les entraîner. Par contre, on a un groupe de sujets, les neuneux, quoi, si vous voulez, ils sont biaisés avant et ils restent biaisés après l'entraînement. C'est-à-dire, ils font toujours les erreurs.
Bonsoir, monsieur.
Je vous en prie.
Bonsoir, monsieur. D'après ce que j'ai compris, c'est génial parce qu'au fur et à mesure que l'exposé avançait, il y avait des questions que je voulais poser qui tombaient. C'est très bien. Je voudrais vous demander la dernière question. En fait, c'est on peut voir la folie des gens par imagerie mentale ou par étude des aires visuelles, par IRM par exemple.
Bon.
Et donc soigner la folie mentale des gens.
Oui, je crois que c'est une question qui est quand même très importante parce que. Effectivement, il y a des maladies mentales dont l'origine organique n'est pas démontrée. Et pourtant, il y a des signes cliniques majeurs. Donc là, si on ne parle pas des maladies neurologiques avec des lésions, mais si on parle vraiment des maladies psychiatriques, ces techniques vont révéler comment les réseaux qui fonctionnent chez le témoin volontaire sain sont modifiés et dans quelle mesure ces modifications peuvent expliquer les symptômes qu'on observe. Bon, c'est pas avec ces techniques-là qu'on va guérir. Ce sont des techniques qui sont uniquement d'observation, des techniques, j'allais dire, diagnostiques à la limite. Mais ces techniques peuvent effectivement montrer, peut-être pour la première fois, qu'il y a véritablement un substrat biologique au dysfonctionnement cognitif, car ces maladies, qu'on appelle la folie, sont des dysfonctionnements de certaines fonctions cognitives. Alors, il y a dans l'unité de recherche une équipe de psychiatres qui va, dans les années qui viennent, utiliser ces méthodes pour étudier notamment la schizophrénie.
Vous avez rappelé ce qu'avait dit Descartes au sujet de l'épiphyse, et dont on se moque un peu, évidemment, actuellement. Cependant, il y a des auteurs allemands qui ont parlé bien après de Hirnzentrum, c'est-à-dire le centre du moi. D'autre part, il semblerait que toutes les fonctions cérébrales soit des outils au service d'un certain jeu JE. Est-ce que c'est une illusion, d'après vous, ou est-ce qu'au contraire, c'est une réalité qui suffit, enfin, que dans un avenir ultérieur, on trouve ce fameux centre quelque part ?
Bon. Non, mais j'avais prévu, hein. Non, mais là, on rentre dans un débat qui est vraiment extrêmement intéressant parce que, justement, je crois que le vrai apport de ces méthodes n'est pas la partie technologique. Je crois que ces méthodes, elles reposent, en d'autres termes, le débat qui a lieu sur toutes les théories de l'esprit. Après, j'ai envie de dire que on peut pas le faire jusqu'à 8h moins le quart. Enfin, il faut qu'on aille, qu'on s'assoie, qu'on se prenne rendez-vous pour discuter de ça. Je peux que donner ma position personnelle. Donc, moi, ma position personnelle, c'est vraiment du matérialisme, et si je suis vraiment honnête, c'est presque du matérialisme qu'on appelle éliminationniste. C'est-à-dire, je crois qu'il faut simplement attendre d'avoir collecté l'ensemble des données, mais je crois qu'effectivement, on va pouvoir se passer de ce qu'on appelle la psychologie assez rapidement. Que la psychologie, c'est... Bon. Je savais qu'il ne fallait pas que j'aille sur ce domaine-là. Vous voulez une opinion personnelle, je vous donne une opinion personnelle. D'accord ?
Bonsoir.
Mais le débat peut être intéressant. Et il y a des théories de l'esprit qui se modifient aussi, à l'heure actuelle, pour intégrer ces données nouvelles sur le fonctionnement cérébral. Et ce à quoi vous faites référence est quand même une théorie dualiste assez marquée.
Oui, bonsoir. J'ai deux questions à vous poser, dont la première, peut-être, qui va rejoindre celle de monsieur. A-t-on déjà réussi à visualiser des aires cérébrales concernant des sujets qui seraient dans des états de conscience modifiés, notamment dans des états de méditation ou autres ? Et ma deuxième question, a-t-on réussi à expliquer le fait que des personnes qui aient été amputées de certains de leurs membres ont la sensation, en fait, d'avoir la motricité de leurs membres amputés ?
Oui.
Merci.
Alors la réponse, c'est oui aux deux. En ce qui concerne les états de conscience modifiés, je dirais que d'une certaine façon, ce que je vous ai montré que la partie que fait le cerveau lorsque le sujet fait la tâche. Donc, vous pouvez inverser le problème. Comme c'est des paradigmes de différence, vous pouvez poser la question, que fait le sujet lorsqu'il est dans son état de repos ? Et là, on est en train de se livrer à une sorte de méta-analyse de toutes nos données, puisqu'en fait, là, on a un sujet qui est en état de méditation. Alors, à côté de ça, et donc on a des résultats là-dessus déjà, à côté de ça, il y a des gens qui ont fait, il y a eu de la méditation transcendantale, il y a eu de l'hypnose, il y a eu des études chez des patients qui étaient en coma, donc avec des pertes de conscience, et donc on a déjà tout un corpus de données, en fait, sur ces états de variation de conscience. La deuxième question, c'était oui aussi, il a été montré avec ces techniques que les aires après amputation, donc les membres fantômes, et les douleurs dans des membres qui ont disparu, ont une représentation corticale. Il y a un substrat, substrat neuronal, qui explique les sensations et les douleurs qu'ont les sujets. Autrement dit, ces cartes, si vous voulez, de représentation des membres, elles existent dans le cerveau, elles n'existent pas dans les membres, ce qu'on sait depuis longtemps, mais elles persistent après amputation. Non, pourquoi ? Oui, mais il y a une corrélation indirecte, mais il y a une corrélation entre ces potentiels électriques, ces activités électriques, et les activités métaboliques. Donc, vous pouvez observer aussi bien ces événements avec les techniques hémodynamiques qu'avec les techniques électromagnétiques. Alors, en l'occurrence, il vaut mieux utiliser des techniques hémodynamiques parce que pour pouvoir voir, par exemple, ce qui se passe lorsqu'on vous ampute d'une jambe, vous avez besoin d'aller regarder précisément, spatialement, où est l'air qui est responsable de... la synesthésie de ce membre.
Hein ? Oui, bonsoir. Est-ce qu'il existe des techniques de cartographie au point de vue des neurotransmetteurs ? Oui. Et ceci, enfin, autre que post-mortem ?
Oui. Bon, la tomographie par émission de positon, comme c'est basé en fait sur l'enregistrement de la radioactivité, vous pouvez utiliser comme traceur n'importe quelle molécule que vous avez marquée radioactivement. Donc, pour faire le débit, on utilise de l'eau. Mais comme c'est une technique qui est extrêmement sensible, puisque ça détecte en fait des traceurs qui sont exogènes, Il y a énormément de travaux qui sont faits à l'heure actuelle chez l'homme en injectant soit des analogues de neurotransmetteurs, donc des compétiteurs, inhibiteurs, ou agonistes ou antagonistes, soit même en jouant sur la modulation, c'est-à-dire en injectant des molécules qui elles-mêmes vont modifier la liaison du neurotransmetteur à son récepteur. Alors il y a un problème avec ça, quand même, pourquoi je n'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de relation stricte entre les systèmes de neurotransmission et la cognition. Et donc, si vous me dites demain, tiens, je voudrais regarder les rapports de la sérotonine avec le langage, je dis pourquoi celui-là, il y en a 350 autres. C'est difficile de faire des hypothèses a priori sur neurotransmission et cognition à l'heure actuelle. Et l'autre problème, c'est que la neurotransmission, bien que c'est un phénomène, ça soit un phénomène très rapide, pour que le traceur atteigne sa cible, le traceur radioactif, il faut du temps, et on est obligé d'utiliser des molécules qui sont marquées, pas avec de l'oxygène 15, mais avec du carbone 11, ce qui veut dire des durées d'acquisition de 40 minutes, et faire des tâches cognitives pendant 40 minutes, de temps en temps, c'est assez difficile. C'est ce que vous avez fait ce soir. Alors, il fallait que je vous mette dans une caméra positon, mais pour certaines tâches, c'est quasiment impossible.
Bien. Oui, derrière vous, monsieur.
Oui. Vous connaissez, je suppose, les théories de Damasio sur les relations entre la conscience et la représentation du corps, les relations entre les deux, etc. Est-ce que l'imagerie a produit quelque chose par rapport à ces questions-là ?
Tout est dans l'interprétation des données, là. Donc, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience, à l'heure actuelle, propre, sur le plan expérimental, ni de définition, si on veut être honnête, de ce qu'est la conscience. Et donc, Damasio, dans le dernier papier qui est paru il n'y a pas longtemps, il a dit « Moi, j'ai trouvé les zones de la conscience. » Alors, il en a une dans le cingulum, il y en a une, enfin, c'est une région médiane, il en a une dans le pont. Bon, très bien. Et il extrait ça d'un certain nombre d'expériences, mais on n'a pas de données expérimentales au sens où je l'ai présenté, où on puisse, si vous voulez, démontrer formellement et définir en fait ce qu'est la conscience, autant qu'il y a des états de conscience assez différents en fait. Et donc je dirais que oui et non, c'est-à-dire que si vous me donnez une définition de la conscience et qu'on monte un protocole ensemble, on pourrait, mais moi je crois, c'est le sens de ma réponse à la question de monsieur, je crois qu'on trouvera peut-être pas les zones, mais peut-être les processus qui font qu'on accède à la conscience. Vous savez aussi, bon, même chez les neurobiologistes, à l'heure actuelle, il n'y a pas unanimité sur ce que pourrait être en fait le support physique de la conscience. Il y a des théories quantiques de la conscience, il y a des théories des cartes d'Edelman, enfin, il y a plusieurs théories, et tant qu'on n'aura pas une expérience à faire chez l'homme, parce que malgré tout, c'est assez difficile à faire chez l'animal, ça sera quand même un problème qui reste pas résolu.
Deux questions ici. Ce seront les dernières, parce que nous arrivons autant à partie.
Oui, je voudrais vous demander si l'apprentissage ou l'acquisition d'un meilleur processus de l'idéation entraîne une modification des zones de la pensée, par exemple une extension.
Oui. Alors, il y a eu l'expérience que je vous ai montrée là d'Olivier Houdet qui répond un petit peu à la question. C'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est même pas une extension, c'est carrément un autre réseau qui prend en charge la même tâche, mais pour la réussir correctement. Par contre, il y a un autre niveau de réponse à votre question qui est et qui concerne notamment les activités motrices. C'est-à-dire que lorsqu'un sujet apprend un geste complexe, il met en jeu un certain réseau cérébral, et notamment des aires qui sont responsables de la motricité, qu'on a vu sur l'avant-dernière diapositive, celle qui combine électromagnétocéphalographie et tomographie à positon. Au fur et à mesure que le sujet apprend la tâche, et donc devient expert, on s'aperçoit qu'il y a une extension de la représentation, si vous voulez, corticale de cette tâche. Autrement dit, il y a un recrutement neuronal. Alors ça, c'est vrai pour les zones motrices. Maintenant, sur la tâche de génération de verbes que je vous ai montrée, il y a des expériences qui ont été faites par un groupe américain à Saint-Louis et qui ont montré qu'en fait, sur ce type de tâche de génération de verbes, où il y a, si vous voulez, un accès qui doit se faire à une mémoire dans laquelle vous avez stocké les relations entre les mots et les verbes, au fur et à mesure que vous passez la même liste de mots, eh bien, ce réseau-là, il s'éteint. Et c'est un autre réseau qui prend en charge l'automatisation de la tâche. Donc, il n'y a pas de réponse définitive sur est-ce que quand on devient expert à une tâche, on a tendance à élargir les aires corticales qui en sont responsables, ou bien est-ce que c'est carrément un autre réseau qui, lorsque la tâche devient automatique, ou comme dans le cas de l'expérience d'Oudé, lorsque la tâche devient réussie de façon correcte grâce à un changement de stratégie. Là, c'est carrément un autre réseau qui se met en action. Alors peut-être que l'expérience motrice est un peu différente, parce que là, il y a une sortie motrice qui nécessite d'avoir alors, une représentation au niveau des cellules effectrices, des neurones. Et c'est peut-être pour ça que dans cette expérience, on est obligé de s'appuyer sur des aires qui augmentent au fur et à mesure qu'on devient expert.
Bien. Dernière question.
Oui, donc moi je voulais dire quelque chose à propos du substrat de la pensée au sein du cerveau. En fait, c'est une question qui arrive tout le temps dès qu'on en parle à des gens qui sont extérieurs au domaine. Et il y a une expérience qui a été faite pour demander aux gens d'abord d'avoir une pensée indépendante de tout stimulus. En anglais, ça passe mieux, mais c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez. Et deuxièmement, là, on capture complètement le cerveau en obligeant la personne à générer une suite de nombres au hasard. Et on vérifie avec quelle précision le hasard est désordonné. Et donc, en analysant les différences d'activation des zones cérébrales, on remarque que on retombe sur des bases de neuropsychologie qui disent qu'il y a un certain fonctionnement où on a un grand capitaine qui commande tout le monde, le central exécutif, et d'un autre côté, on a des aires qui sont plus esclaves. C'est un peu une réponse pour la question du monsieur qui parlait du grand jeu. Alors, je ne dis pas qu'on a répondu à tout. On sait ce qui se passe dans le cerveau. Maintenant, ceux qui veulent penser qu'il y a autre chose ailleurs, la réponse, elle n'est pas ici.
Mais l'expérience à laquelle vous faites référence, qui date déjà d'il y a quelques années, elle a quand même été sérieusement battue en brèche récemment. Et je pense que dans la communauté, cette notion de central exécutif qui avait été mise en avant par Baddeley est maintenant sérieusement battue en brèche au niveau même à la fois de son existence dans les modèles avancés de psychologie et surtout au niveau de ses bases neurales.
Bien, merci Bernard Mazoyer. Merci à vous. Thank you.